France Inter.
J'aime bien les personnages qui ont en eux ce besoin d'émancipation et ou ce besoin de liberté, mais en fonction des époques, c'est différent, en fonction des conditions.
Moi, c'est comme ça que j'en suis venue à l'écriture et que c'est devenu une nécessité parce que j'étais mal à l'aise dans la vie. Et du coup, l'écriture était un moyen de comprendre cette vie et d'y être à l'aise.
La comédienne Nadia Tereskiewicz connaît une carrière fulgurante. Après un premier rôle dans Sauvage, elle explose en 2022 au Festival de Cannes dans Les Amandiers et obtient l'année suivante un César du meilleur espoir, puis le succès public de Mon crime de François Ozon. Mercredi 26 mars, on la verra au cinéma être au petit soin pour des personnes âgées dans Belladone de la réalisatrice Alante Cavaité. Et plus tard, elle montera à cheval dans un film où le héros est Buffalo Bill. Et enfin, elle sera au casting du nouveau Des Pleuchins. Bonjour Nadia Tereskiewicz.
Bonjour Vincent.
C'est très mystérieux ce film sur Buffalo Bill. Vous êtes donc à cheval et en costume dans une colline italienne?
Exactement.
Et c'est bon?
Bah, franchement, on a de la chance.
De faire ce métier?
Oui. Oui.
Votre invitée est romancière, je salue Lynn Papin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait aussi une entrée remarquée en littérature en 2016, critiques encourageantes, positives pour des romans comme L'Éveil ou Les Eaux des Filles. Et vous publiez mercredi chez Stock votre septième roman, Une vague. Un tsunami interrompt une histoire d'amour entre Anna et Auguste. Auguste disparaît, mais est-ce définitif? Bienvenue à toutes les deux. On évoquera aussi dans cet atelier le printemps du dessin, qui propose de voir des artistes dessinateurs un petit peu partout en France et de discuter avec eux à partir de jeudi. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Ben oui, puisque je donne des dates, Nadia Tereskiewicz, ça fait à peu près 7 ans que le cinéma vous a ouvert les bras. D'abord Les Sauvages de Denise Berry, et puis il y a eu Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Depuis 3, 4, 5 ans, est-ce que votre vie a radicalement changé?
Ben, je me sens très chanceuse parce que j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Et j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens, oui, qui ont changé ma vie. Et rencontrer des personnages, des histoires qui m'ont fait voyager dans le temps, et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont changé aussi parce qu'il y a... Enfin, on apprend beaucoup sur soi avec des personnages et j'ai l'impression d'avoir grandi et ouais, d'avoir grandi avec le cinéma là, ces dernières années.
À quoi ressemble votre vie aujourd'hui?
Je me trouve plutôt joyeuse et chanceuse et je voyage... plutôt beaucoup. Là, j'étais en Italie il y a 2 jours pour de la post-synchro. Enfin, on crée des familles. J'ai une petite famille à Rome. Et voilà, j'essaye de choisir des rôles intéressants. Puis après, à côté de ça, je lis, notamment Lynn, et je danse.
Ah oui, vous continuez de danser parce que vous parliez de plusieurs vies. C'est vrai qu'il y a une longue première vie de danseuse.
Oui, j'ai eu un passé de danseuse, mais classique. Et là, j'ai repris il n'y a pas longtemps la danse contemporaine. Et c'est assez agréable de le reprendre dans un but non professionnel, mais plutôt pour me reconnecter à mon corps et pour aussi pour s'abandonner. Enfin, j'ai l'impression qu'à travers la danse, je reconnecte à quelque chose quand même qui m'a forgée. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier rapport à l'art, c'était par le corps et mes émotions, enfin la danse me charge émotionnellement et donc ça me fait tellement de bien. Je vais faire des cours de gaga, des cours de gaga danse.
C'est quoi?
Ben, c'est une danse qui a été créée par Oad Naharin, qui est un danseur, qui est un chorégraphe israélien qui a créé sa compagnie et son style de danse. Et maintenant il est devenu dans le monde entier... très connu, il est pionnier de quelque chose. Enfin. Mmh. Et c'est une danse très organique, où on est dans une sorte de flow.
Vous pourriez me faire un geste, là, même si on est à la radio?
il est sur le flot. Donc on flotte.
Ah oui, votre corps est en train de bouger, mais la radio n'est pas filmée. Outre l'actrice que j'ai devant moi, vous êtes une image pour deux grandes marques. Vous êtes l'une des égéries Dior et également Cartier. Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui marchent bien, qui font de la pub. Je voudrais savoir si c'est un passage obligé et si ne pas le faire, c'est prendre le risque d'être moins désiré dans votre métier d'actrice.
Je ne sais pas vraiment. En tout cas, la maison Dior, elle m'a contactée... en ayant vu des films que j'avais faits et ils m'ont énormément, ils me soutiennent énormément dans mon travail d'actrice. Ils m'ont soutenue notamment au Festival de Cannes et quelque part j'ai découvert la mode. Pour moi c'était très nouveau et j'ai découvert qu'en fait la mode permettait de se plonger dans des... C'est comme des rôles, en fait, de choisir un vêtement. On se sent plus puissante, on trouve de l'assurance. Parfois, je porte des vêtements où je me dis « Ah, c'est une personnalité... » Enfin, c'est une partie de ma personnalité que je ne connaissais pas. Ou même, ça m'emmène ailleurs, ça me... Donc, en fait, je dois dire que je suis très reconnaissante d'être entrée dans cette maison. Et puis là, par exemple, le dernier show, il était mis en scène par Bob Wilson, qui est un de mes metteurs en scène préférés. C'était inspiré d'Orlando de Virginia Woolf. Donc, en fait, là, quelque part, les vêtements faisaient partie d'une narration plus large, presque, faisaient partie du spectacle. Et on avait une traversée des époques. Avec le vêtement aussi, parce que les vêtements parlent des époques. C'est là où ça se relie vraiment très bien au cinéma. Voilà.
On vous sent pleine d'ardeur, pleine d'envie et pleine de merci aussi au pluriel.
Ah bah oui, évidemment, parce que c'est une chance, j'en ai conscience.
Et avec vous, Lynn Papin dira merci, j'espère, au lecteur dans quelques jours, puisque son septième roman, Une vague, sort chez Stock dans quelques jours. Pour se mettre en train, on va écouter une des chansons préférées de vous, Nadia Tereskiewicz, vous savez laquelle ?
Björk, Bachelorette.
Et pourquoi ?
Je l'écoutais, moi, bon, j'adore Björk, mais depuis que je suis enfant. Mon père mettait Björk quand j'avais 4 ans et je dansais sur Bachelorette dans le salon. Je crois que c'est relié à ma petite enfance.
Shape of love. Pourquoi tu veux être actrice?
Un dimanche soir, j'étais chez mes parents. J'étais sur mon lit toute seule. Et j'ai senti que je perdais ma jeunesse. Je suis allée dans...
Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Parce que je suis un peu sourde.
Mais pardon.
Merci.
Donc je suis allée dans la salle devant mon miroir et là j'ai vu sur mon visage le temps qui passait. Et ma jeunesse qui s'en allait. Je voyais ma vie qui allait passer pour rien.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Un extrait du film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Votre personnage, Nadia Tereskiewicz, qui passe le concours d'entrée à l'école des Amandiers dans les années 80, c'est ce qu'a vécu Valeria Bruni-Tedeschi. Vous écoutez là, d'abord ça doit vous émouvoir parce que vous avez une voix encore plus jeune que celle d'aujourd'hui, c'était il y a quelques années.
Oui.
Comment avez-vous vécu cette scène, par exemple?
En fait, c'était... Il y avait une forme de mise en abîme parce que je passais vraiment l'audition. Je me souviens que Valéria nous avait dit, évidemment c'est pas vrai, mais elle nous avait dit qu'on avait un peu une chance. C'est-à-dire qu'on passait et il y avait un jury et c'était des acteurs que j'admire énormément.
Alors là, par exemple, dans le rôle du professeur Pierre Roman, il y avait Michel Esco.
Exactement. Mmh. Et puis elle avait invité plein d'autres acteurs, dont des acteurs qui faisaient partie de la troupe, dont Thibaut de Montalembert.
Voilà, qui a été un des élèves aussi.
Exactement. Donc il y avait une... Il y avait un moment où on est au-delà de la fiction quand on joue devant des personnes qui ont vécu cette école. Enfin, il y avait quelque chose qui était au-delà d'un tournage. Et donc, je me souviens, j'avais une adrénaline telle avant de rentrer sur scène. Je tremblais. Enfin, il y avait quelque chose de très, très fort qui fait que, quelque part... De toute façon, j'ai un peu appris le métier de comédienne avec Valéria et avec ce film.
Vous dites toujours ça, c'est vrai?
Oui, parce que c'était un peu, en fait, oui, l'école Valéria.
Alors que vous aviez déjà fait le cours Florent, mais on apprend finalement sur le tas, non?
Quand on a la chance de rencontrer des personnes uniques comme Valéria, c'est vrai que c'était une école. On avait eu plus de 4 mois pour travailler. Quand il y a une phrase de Platonov dans le film, nous, on avait appris toute la pièce. Enfin, c'est quand même une époque, je me souviens, d'épanouissement vraiment immense. Mm.
Elle a reçu l'enseignement de Chéreau, elle en parle encore avec émotion, elle en fait un film qui peut être aussi un film critique, d'ailleurs, sur certains aspects de cette éducation des années 80 où la drogue circulait à Nanterre.
Ah oui, elle le critique aussi.
Elle en parle de tout ça très bien. Mm. Est-ce que, comme Chéreau qui amenait ces jeunes comédiens à tout sortir d'eux, quelquefois en les faisant beaucoup pleurer, est-ce que Valéria Bruni-Tedeschi travaille aussi d'une façon très proche de ses acteurs, les pousse à tout donner? Est-ce qu'elle est dans une forme d'excès dans le but d'obtenir des choses? Comment ça s'est passé?
Elle parle d'une fièvre 42 degrés.
Ah oui.
Il ne faut pas avoir 39 degrés, mais 42. Et elle m'a donné une forme de... Enfin, elle m'a fait prendre conscience de la nécessité de jouer et de la responsabilité que c'est de choisir un rôle et que ça ne peut pas être anodin, en tout cas. Et que bien sûr, on reste distant avec un rôle, mais enfin, il y a une part de soi qu'on donne. On ne donne pas tout, mais on donne quelque chose, parce qu'à un endroit, on doit aller chercher en nous. Pour atteindre une forme de vérité, il faut chercher, en tout cas, quelque chose, il faut donner quelque chose. Et donc, c'est un travail avec elle qui était passionnant. Puis surtout, elle m'a donné accès à des émotions que je ne connaissais même pas. Des endroits de jeu qui m'ont déstabilisée. Elle me disait le ridicule est merveilleux. Et du coup, c'est comme si ça a déplacé un peu les curseurs et on cherche des accidents, des imprévus pour ramener de la vie dans la fiction.
Je me tourne vers Lynn Papin, notre écrivaine. Mmh. Un métier solitaire, l'écriture. Oui. On a beau avoir une éditrice, comme vous l'avez chez Stock, on est seul devant sa page blanche. Est-ce qu'il faut réussir à trouver 42 degrés en soi?
Oui, j'écoutais justement Nadia, parce qu'il est vrai que nos métiers ont quand même des points communs.
Lesquels?
Déjà, incarner des personnages, inventer des personnages. C'est vrai que moi, quand j'invente mes dialogues, enfin, je suis vraiment dans la peau de l'un et de l'autre, quoi, pour savoir ce qu'il va dire, ce qu'elle va répondre. Donc, quelque part, on joue aussi.
Là, dans la vague, pourquoi je dis la vague ? Anna et Auguste, vous êtes les deux, au moment où vous écrivez.
Je suis même les quatre, les cinq, oui, c'est sûr.
Oui, ils sont nombreux.
Et c'est Romain Gary, d'ailleurs, qui disait « Tout romancier est aussi un acteur ». Mais à la différence, c'est vrai que je pense que, quelque part... On se met pas en danger physiquement. Enfin, en danger, je veux dire, voilà, quand tu parlais de ridicule, il n'y a pas ce côté où on est sur scène et d'un coup, on va faire quelque chose va nous échapper et d'autres gens vont nous regarder. Et c'est vrai que donc on est un peu planqué. Moi, je suis dans ma chambre. Donc, mais quelque part, c'est la même. Enfin, il y a ce travail d'approche du personnage.
Vous dites que vous interprétez, alors que pour moi, une interprète est différente du créateur, de celui qui apporte à l'interprète une nourriture.
Incarner, peut-être, dans le sens où on est quand même à l'intérieur de la tête du personnage. Et c'est vrai que moi, chacun de mes personnages, je sais ce qu'ils vont répondre, comment ils vont réagir. Un personnage va être... tout le temps un peu plus dans la retenue, plus froid, dans la maîtrise, un autre dans l'émotion. Donc je pense que ça nous rapproche un peu du métier d'acteur, on va dire. Mais évidemment, il n'y a pas toute la dimension corporelle et puis la dimension de jeu dans l'espace. Et voilà, ça reste un autre métier quand même.
Quand on a demandé à Nadia Tereskiewicz qui elle voulait rencontrer, puisque vous ne vous connaissiez pas toutes les deux, elle a dit tout de suite Lynn Papin, parce que vous lisez Lynn Papin, vous avez lu plusieurs livres d'elle, vous avez lu la manière dont elle parle d'elle-même, de son exil. Elle est partie d'Hanoï, elle est arrivée en France quand elle avait 10 ans. Ça a été compliqué à l'école, je parle comme si vous n'étiez pas là. Il y a eu cette période douloureuse de votre corps et de votre esprit qui était l'anorexie. Tout ça, vous le racontez ou vous le fictionnez et vous êtes sensible, autant j'imagine, au fond qu'à la forme, chez Lynn Papin, Nadia Tereskiewicz.
Mais j'ai découvert Lynn il y a très longtemps parce que j'avais lu L'éveil.
Premier roman.
Et je l'ai lu peu après sa sortie. Et après, j'ai découvert Les Eaux des Filles en 2022.
Les Eaux des Filles, qui est sur cette douleur dont je parlais à l'instant.
Oui, sur la violence de l'exil. C'est aussi de magnifiques portraits de femmes parce qu'elle parle de sa grand-mère, de sa mère. Enfin, il y a des femmes magnifiques. Et puis, elle parle de ce retour aux sources. Je trouve que ça a tout de suite été une écriture, pour moi, percutante. Je trouve que Lynn, elle touche dans ce qui est le plus intime, parce qu'il y a une sorte de vérité, en plus très simple, mais qui fait que ça nous touche en plein cœur et que je m'y suis identifiée. Ce rapport à l'identité, le fait d'avoir deux nationalités.
C'est votre cas, hein ?
En plus, c'est mon cas. Alors, on a vécu des choses très différentes, mais ce rapport au corps et ce rapport à l'identité, c'est un livre qui m'a marquée. Je m'en souviens encore, je l'ai vraiment dans ma peau, parce que c'est un vrai moment pour moi littéraire. C'est là où je pense dans le pouvoir de la littérature. Mmh. Et donc, cette chose d'avoir deux nationalités, je me souviens que cette sensation de se dire on n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre.
Alors, française et vietnamienne, oui. Pour ce qui concerne Lynn, et vous alors, Nadia ?
Mais moi, je suis à moitié française, à moitié finlandaise. Et c'est vrai que c'est à la fois une force d'avoir deux nationalités. Et en même temps, je m'étais retrouvée. J'avais jamais lu, en fait, un roman où on questionne ça, de se dire qu'en fait, on se retrouve dans un pays, on n'est ni tout à fait là. Puis quand on retourne au pays, on n'est ni tout à fait de l'autre nationalité. Et donc, on est un peu déstabilisé. Et ça questionne, du coup, qu'est-ce qui nous définit, enfin, à où on appartient.
Lynn Papin, est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'une des romancières de l'identité ?
Je ne sais pas, j'ai du mal à me définir moi-même.
En tout cas, c'est un thème qui fait que vous écrivez.
Oui.
Cette question sur vous-même.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans une vague, il en est question aussi.
Bien sûr.
Et je pense que... Enfin, on se pose toujours la question de l'identité dans une vague. C'est ce personnage qui va... essayer de devenir autre que soi-même, mais est-ce qu'on peut devenir autre que soi-même et jusqu'à quel point et quels sont les risques? Et je pense que dans nos métiers où justement on passe notre temps, Nadia aussi, à incarner des personnages, à être autre que soi, c'est toujours cette question de... Et est-ce que soi-même existe en fait? Qu'est-ce que c'est déjà à la base?
Vous êtes vous-même quand vous êtes devant votre ordinateur et que vous écrivez un roman?
Non, bah, je suis un peu kaléidoscopique, quoi. C'est-à-dire que je suis moi-même là en ce moment, j'espère. Non, on est bien prêt. Voilà, moi, je suis très caméléon aussi, c'est-à-dire que... et je pense, en effet, c'est peut-être dû à la double nationalité, dans le sens où j'ai grandi à la fois avec ma famille vietnamienne, à la fois avec ma famille française, avec des amis internationaux. Et donc, j'avais l'habitude de naviguer entre différentes langues, différents univers, différents milieux sociaux. Et c'est ça qui est riche en même temps, c'est d'aller voir un petit peu comment ça se passe partout, je trouve.
Ouais.
Nadia ?
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on est toujours... parce que là, je parle d'une vague, est-ce qu'on peut échapper à qui on est ? Je pense qu'on est toujours en fait, ramené à ce qu'on est. Je ne sais pas, j'ai l'impression, moi, d'avoir ma petite enfance avec moi. Et mon père m'avait dit...
Björk était l'exemple
exactement,
tout à l'heure.
Exactement, exactement. Puis mon père m'a dit, il n'y a pas si longtemps, que plus il vieillit, plus il est connecté à des souvenirs de la petite enfance. Et plus, en fait, on a envie de retourner là où on a grandi, enfin, qu'il avait ça. Et je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, on a beau vouloir changer de personnalité, d'identité, en fait, est-ce qu'au final, on ne reste pas soi-même ?
On embrasse d'ailleurs vos parents parce qu'ils sont en train de nous écouter, Nadia Tereskiewicz. Bonjour monsieur, bonjour madame. Autre roman de Lynn Papin que vous avez lu, je crois, c'est Une vie possible.
Oui.
Alors là, c'est une femme, Lynn,
oui.
même prénom que son autrice, qui tombe enceinte, qui attend des jumeaux. Et puis il va se passer quelque chose de difficile, de douloureux. Les fœtus ne vont pas s'accrocher, elle doit subir une IBG. Et puis d'autres choses se produiront d'une façon douloureuse. Comment vous avez lu ce livre-là ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Nadia ?
Je l'ai lu il y a quelques années et je l'ai relu récemment pour me le remettre en tête avant l'émission.
Pour l'émission, oui.
Ouais. Mais je me souviens déjà, la première fois que je l'ai lu, que c'est un... C'est un livre... moi, j'avais jamais lu de livre sur ces tabous que sont... C'est un tabou sociétal, la fausse couche
et l'avortement.
Et je me souviens que déjà, je m'étais dit merci de parler de ça, parce qu'à la fois, c'est un roman... on ne peut pas plus intime. Et en même temps, il a quelque chose d'universel, c'est-à-dire de réparateur, de nécessaire. C'est un hommage à des femmes comme... Annie Arnaud, Simone Veil, Gisèle Halimi. Enfin, je trouve que c'est un livre qu'on devrait lire quand on est une jeune femme, parce qu'en plus, elle parle de tout, elle cache pas ce qui se passe. Enfin, j'ai l'impression que c'est au plus proche de la vérité de ces situations.
C'est vrai que vous parlez du corps qui change, par exemple, du corps douloureux.
Oui, bah, du corps féminin. Je
et
crois
puis
que
aussi
ça,
du silence qui entoure tout ça.
Exactement, parce que c'est vrai que c'est un événement, en fait, que j'avais trouvé littéraire, vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, justement, il y a des questions qui m'intéressent, l'identité, la naissance, la mort, le corps. J'ai l'impression que c'est un peu les grands thèmes. C'est-à-dire, on est, après on a notre corps qui va changer, vieillir, se modifier, et puis on meurt. Et c'est le grand mystère, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que femme, de se dire, mon corps crée un autre corps. Enfin, il y avait toutes ces questions, mais que j'avais envie de traiter d'un point de vue littéraire.
À partir d'une expérience vécue, tout ça, c'est
bien
vous.
Bien sûr,
hein.
Oui, oui. Mais en effet, je me disais aussi à ce moment-là, parce que je suis aussi une grande lectrice, que souvent, quand on traverse des événements, que ce soit être amoureux ou être... Enfin, peu importe, mais on aime bien lire ou écouter de la musique ou voir un film qui reflète en fait nos expériences pour nous aider à les comprendre ou alors pour étendre un petit peu notre champ émotionnel grâce à l'art, on va dire.
Bien sûr.
Mais, et sur ce thème-là, qui pourtant concerne une femme sur trois, il me semble, bah, il n'y avait rien. Il y avait soit des essais, soit des choses très, très polémiques et politiques, mais il y avait très, très peu de choses sentimentales, parce que c'est quand même un événement qui est avant tout de l'ordre de l'émotion, plus que de l'ordre de la politique, quand on le vit, en tout cas.
Vous réécoutez Annie Arnaud, un extrait de son livre, où il est question de son avortement. C'est l'événement.
Oui.
Hein, puisqu'Annie Arnaud est quelqu'un qui compte particulièrement pour vous, Lynn Papin. C'est un texte qui a été très souvent porté à la scène, récemment par Françoise Gillard et puis aussi par Marianne Bassler. Moi, j'ai vu des gens s'évanouir pendant le spectacle. On écoute un petit extrait lu par l'autrice Annie Arnaud.
J'ai couru aux toilettes de l'autre côté du couloir et je me suis accroupie devant la cuvette face à la porte. Je voyais le carrelage entre mes cuisses. Je poussais de toutes mes forces. Cela a jailli comme une grenade dans un éclaboussement d'eau qui s'est répandu jusqu'à la porte.
Je voulais qu'on écoute cet extrait-là parce que Annie Ernaux est crue, et dans cet extrait-là en tout cas, et je voulais savoir si vous vous êtes posé un certain nombre de questions avant d'écrire sur ce thème et sur cette expérience.
J'ai beaucoup navigué dans mon texte, par pudeur je pense, entre les moments de récit personnel où on avance avec le personnage et des dialogues avec plutôt des essais, donc comme Nadia le disait, Gisèle Halimi, enfin un peu l'historique, l'histoire des femmes et des hommes aussi qui ont pris la parole. Donc je pense que c'était un peu une manière d'être pas trop cru et d'avancer avec poésie surtout sur ce thème, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était d'avoir une approche poétique de ces événements.
Le fameux travail sur la langue.
Voilà.
Il ne suffit pas de l'idée. On va se retrouver, Nadia Tereskiewicz, et puis vous, Lynn Papin, après avoir écouté un chanteur italien qui a aussi composé la musique du règne animal. Vous vous souvenez bien sûr de ce film. On reste dans le cinéma, c'est Andrea Laszlo de Simone.
Amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo, e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro sbaglierò per sempre, ma nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore, nessuno, 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 nessuno.
Qu'est-ce qu'on écoutait à 17h34 sur France Inter, Nadia Tereskiewicz?
Andrea Laszlo de Simone, Un momento migliore.
Oh, on voit que vous rentrez d'une post-synchro. Rome. On va évoquer, mesdames, votre actualité à toutes les deux, avec Lynn Papin aussi, mais comme on évoquait Annie Ernaux, j'aimerais qu'on parle d'une autre écrivaine. Elle était canadienne de langue anglaise, elle est morte en mai dernier, Alice Munro, prix Nobel de littérature. Elle compte particulièrement pour vous, Nadia Tereskiewicz, c'est une autrice de nouvelles, évidemment très remarquée.
C'est une autrice, pour moi, c'est mon autrice, une de mes autrices préférées, parce que j'ai grandi avec ses nouvelles. Elle parle si bien des femmes. C'est des quotidiens de femmes où il y a une petite chose qui va créer un déclic et qui va changer leur vie. Et c'est des femmes qui prennent leur destin en main, qui s'émancipent. C'est vraiment des nouvelles qui sont dures aussi, qui parlent des contradictions de l'âme humaine. Enfin, il y a quelque chose de
On l'a comparé à Tchekhov d'ailleurs.
Complètement. Il y a quelque chose de très tchekhovien, complètement. Parce que c'est le quotidien. Et de là, on est bouleversé et on est marqué pour toujours par ces nouvelles. Notamment surtout le recueil qui s'appelle Fugitive. Que j'aime particulièrement.
Oui, il y a des cinéastes qui se sont emparés de son œuvre, hein, d'ailleurs.
Alors ça,
je crois bien qu'Almodovar s'en est servi une fois.
Je ne savais pas du tout.
Et on va l'écouter, Alice Munro, répondre à la question « Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on écrit une histoire ?»
What part is hardest when you want to tell a story?
I think probably that part where you go over the story.
Je pense que c'est le moment où vous relisez votre histoire et que vous vous rendez compte que c'est très mauvais. C'est là que commence le vrai travail. Mais pour moi, ça en a toujours valu la peine. Je me suis toujours dit que c'était ma faute si l'histoire n'était pas assez bien. Pas la faute de l'histoire en elle-même. Il y a les personnages à qui on n'a pas vraiment donné leur chance. Alors, on commence à les envisager différemment, à en faire quelque chose d'autre. À mes débuts, j'avais tendance à digresser, à embellir. Et puis j'ai appris à retrancher tout ça. Avec le temps, on apprend à trouver ce qui est vraiment au cœur de l'histoire. On croit toujours le savoir au début, mais on est souvent loin du compte.
Je voudrais que Lynn Papin, notre romancière du jour, réagisse à ce qu'elle vient d'entendre. Est-ce que vous diriez, comme Alice Munro, qu'il faut donner une chance à l'histoire et aux personnages et que ce n'est pas rien?
Oui, c'est vrai que moi j'ai souvent l'impression, en tout cas quand il s'agit de fiction, c'est peut-être plus difficile en termes d'invention la fiction, parce que quand on se repose sur des faits qui ont déjà eu lieu, ce qui est difficile, c'est de trouver la justesse, donc de ne pas trahir. Mais en revanche, là, pour une vague qui est vraiment une fiction, une aventure sur 11 ans, 3 continents, c'est vrai qu'à un moment, en plein milieu de l'écriture, j'avais l'impression de gravir une montagne, d'être au milieu. Je regardais en bas, je me dis, si je redescends, ça va être hyper long. Mais si je monte, je ne vais pas y arriver. Donc, je me dis, comment je vais faire pour faire un personnage qui passe de l'océan Indien à l'océan Atlantique, à l'océan Pacifique, qui change d'identité. À un moment, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée?
Ah oui, je rappelle qu'une vague, hein, pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, Lynn Papin, c'est une femme qui, et un homme, un couple amoureux, qui subit un tsunami et lui disparaît. Elle qui était enceinte va perdre leur enfant et elle va se dire qu'il est mort. Et puis, quelques années plus tard, des choses se passeront. Je voudrais peut-être qu'on entende un extrait, comme ça on va entendre la langue de Lynn Papin. Nadia, est-ce que vous avez envie de lire quelque chose?
Je vais lire le deuxième chapitre.
Oui, comme vous voulez. Un extrait d'une vague parue, qui paraîtra mercredi chez Stock, Lynn Papin.
Le calme revient quand Anna ouvre les paupières. La terre a cessé de trembler. Il y a des débris et des corps partout. La cage d'escalier ne ressemble plus à une cage d'escalier. Les étages se sont effondrés. Autour d'elle, Lombok est devenu un lac. L'eau marron a envahi la ville. Le silence succède aux cris, aux tremblements, aux grondements. Tout est muet et mort. Anna se lève, étourdie, et enjambe maladroitement les décombres. À chaque pas, ses jambes et ses hanches semblent se décrocher de son buste en lui font mal. Il faut avancer, sortir de l'immeuble écroulé. Dehors, des poutres, des arbres déracinés, des voitures renversées flottent à la surface d'un océan de boue. Les algues sont accrochées aux toitures des maisons et des morceaux de tissu pendent sur les branches cassées. Anna continue sa progression dans l'eau avec l'impression de marcher dans la mer. Ses yeux ne rencontrent que des formes flottantes, des vestiges de l'enfer. Dans sa tête, le lia baldaquin tremble encore, le cliquetis de la coupelle résonne. Le monde a basculé du paradis à ce paysage informe et défiguré. Il lui faut retrouver Auguste, mais elle ne sait même pas où est la plage, il n'y a plus de plage, il n'y a que des débris partout.
Vous aviez tout le roman en tête dès le départ ou c'est au fil de la plume que vous savez ce qui va se passer?
Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'avais la partie de Anna, donc c'est ce jeune couple qui sont à Lombok sur l'océan Indien. Et elle se relève après le tsunami et donc lui a disparu pendant des mois. Il recherche son corps et il est introuvable et donc les autorités finissent par le déclarer mort. Et elle, donc pendant 11 ans, tente de l'oublier et laisse difficilement la place à un nouvel amour, etc. Donc au début, j'étais vraiment avec ce personnage. Et il est vrai qu'ensuite, il y avait toute la partie sur lui. À savoir que lui va refaire... Je ne vais pas dévoiler la fin, mais lui part refaire sa vie et a décidé en fait de se réinventer et de partir aux États-Unis. Et donc ensuite, j'ai plongé dans ce personnage-là. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la difficulté de la fiction, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Comment je vais finir, en fait?
Oui.
Et j'avais l'impression que les personnages me regardaient et me disaient, bah, débrouille-toi, parce que nous, on a besoin d'exister, donc tu te débrouilles. Et donc, c'est vrai.
Et ça vient ou on fait appel à son éditrice?
On est aidé par son éditrice, évidemment.
Elle peut débloquer des choses?
Bien sûr. Un éditeur, c'est un peu comme un ostéopathe. C'est-à-dire qu'à un moment, il va appuyer et débloquer un peu.
Oui.
Mais après, le fournir tout le reste, c'est vrai que c'est quand même
c'est
notre tâche.
Aujourd'hui, quelque chose vous relie toutes les deux par rapport à cette double actualité, c'est l'insularité, puisque au cinéma, mercredi, le film Belladone, enfin, dans 10 jours exactement, le film Belladone, la Belladone, c'est cette herbe qu'utilisaient les sorcières soit comme remède, soit comme poison. Ce film futuriste sera sur les écrans. Il est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, Nadia Tereskiewicz. On est en 2050, il y a une loi qui impose aux personnes âgées de vivre en institution. Seulement, il y a des résistants. Certains ont choisi de ne pas respecter cette règle. Et une jeune femme sur une île se bat pour en protéger quelques-uns. Cette jeune femme, c'est vous. Je voulais savoir pourquoi vous aviez accepté de signer pour ce film mi-futuriste, mi-fantastique, à la fois doux et terrifiant.
Ben moi, j'ai été très touchée par le sujet, comment il était traité, parce que c'est à la fois un conte, une forme de fable, et en même temps, ça traite d'un sujet sociétal, actuel, très important, c'est-à-dire la vieillesse et la fin de vie. Comment on infantilise les personnes âgées. Ça parle de la fin de vie et c'est vrai que j'étais touchée par ce personnage aussi que je ne comprenais pas tout à fait.
Il y a des choses obscures autour d'elle.
Complètement, elle est complexe et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est un personnage qui s'empêche de vivre. Elle empêche les autres de vivre parce qu'elle a tellement peur de la mort, elle est dans un déni de la mort et du coup elle s'empêche de vivre elle-même. Et
elle les contraint. Elle
oui.
les contraint, elle ne veut pas qu'ils boivent trop de vin.
Exactement.
Elle ne veut pas qu'ils mangent trop.
Alors que c'est un film qui voit la mort du côté, d'un côté solaire. Enfin, il y a une forme de joie. C'est des vieilles personnes qui s'enivrent, qui dansent. Et donc, il y a une forme de... une vision hédoniste. Enfin, il y a une...
Et la plus jeune, finalement, refuse cet hédonisme.
Oui, et elle va apprendre à... réapprendre à exister, réapprendre à vivre. Et c'est aussi ce trajet que j'aimais, c'est que se réapproprier son corps, c'est un film où elle apprend à se reconnecter, que ce soit sensuellement ou avec tous les sens possibles,
oui.
En fait,
oui, c'est vrai.
À la vie.
C'est vrai, on ne donne pas de détails, mais effectivement, elle reprend goût à la vie. Ce qui m'a touché, entre autres, c'est le casting des personnes âgées. Ce sont des comédiens qu'on aime depuis longtemps, qui sont en fin de carrière, mais qui ont toujours besoin d'être là, au théâtre ou au cinéma. Je pense à Patrick Chesnais. Je pense à Féodor Atkin, à Jean-Claude Drouot, le bonheur d'Agnès Varda, c'était pas rien, Thierry Lafronde non plus. Et puis,
à Miu Miu.
Et puis Miu Miu et Miu Miu. Elle vous regarde avec une tendresse incroyable. J'ai l'impression que ça dépasse son personnage.
Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on ne jouit plus parce que il y avait quelque chose de...
Ah, vous êtes trouvées toutes les deux, non?
Ah oui, moi, c'était une vraie rencontre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette personne. Et en fait, on avait un rapport avec chaque acteur qui était différent avec chacun, mais finalement, comment dire, avec des grandes confidences, il y avait une sorte d'entraide, il y avait un soutien, il y avait un regard très bienveillant envers moi. Et quelque part, c'est vrai que c'est là où la fiction se mêle un peu à la vie, parce que finalement, on a passé du temps sur cette île à parler de la vie,
à raconter vos expériences.
Ouais, et c'est vrai que c'était vraiment chouette aussi de pouvoir jouer, c'est-à-dire avoir des scènes avec des acteurs que j'admire, qui ont une grande sensibilité. Il y avait Jean-Claude Rouault, par exemple, à un moment, j'avais eu une montée de larmes d'émotion tellement il était bouleversant. Voilà, et ça dépasse la fiction.
Ça s'appelle Belladone et ce sera sur les écrans dans une dizaine de jours. On écoute sur France Inter, dans le grand atelier de Nadia Tereskiewicz, Yoa, Princesse K.O.
Oh non, c'est pas vrai, j'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle, c'est difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celle qui n'avance pas au bon endroit, de celle qui trébuche à chaque pas. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je veux tout abîmer, jouir de mes erreurs et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver, faire parler mes peines pour tout recommencer. Oh non, c'est pas vrai, je suis au creux de l'ouragan, peu importe où je vais. Oh non, comment faire, j'ai il me semble un certain talent pour tout foutre en l'air. Je suis de celles qui recommenceront 10 fois avant d'apprendre à marcher 3. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes sortie loin du trou noir. Si le chaos t'envahit, qu'il est trop fort, ferme les yeux et souris encore et encore, encore et encore. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer, jouir de mes erreurs et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver, faire parler mes peines pour tout recommencer. J'attends les sirènes pour tout recommencer. J'attends les sirènes pour tout recommencer. J'attends les sirènes.
Peut-être vous aussi, mais ici ça danse dans le studio. Princesse K.O. Yoa.
Le grand atelier. Vincent Josse. Sur France Inter.
Jeudi, c'est le printemps, et ce même jeudi commence pour 3 mois le printemps du dessin. Dans des lieux aussi différents qu'un monument national, un centre d'art ou une artothèque, vous savez, ces lieux qui proposent de vous prêter pour un temps donné un tableau chez vous, on va pouvoir admirer des dessins et parler à leurs auteurs. C'est une initiative lancée par la fondatrice d'un lieu de dessin à Paris, le Drawing Lab, au sous-sol d'un hôtel 17 rue de Richelieu. Elle s'appelle Christine Fall et elle aime valoriser cet art moins médiatisé que la peinture ou la photo. En ce moment, dans son lieu parisien, elle accueille une exposition de l'artiste Tatiana Volska qui porte le même titre que votre film, Nadia Tereskiewicz, Belladone.
Nous sommes au Drawing Lab, au 17 rue de Richelieu. C'est un lieu d'expérimentation privé, philanthropique, pour permettre toutes les expérimentations du dessin contemporain.
Un lieu philanthropique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que nous finançons le travail des artistes, nous produisons les expositions, nous recevons le public gratuitement.
Alors là, on est effectivement au sous-sol de cet hôtel et on est vraiment dans une sorte de galerie, un grand lieu qui accueille des dessins, mais pas seulement des dessins. Là, effectivement, devant nous, il y a un immense dessin rose, des formes assez féminines, des formes courbes. Et puis en face de nous, un grand espace avec à la fois du collage et des sculptures.
Alors c'est vrai que l'artiste Tatiana Volska a choisi de nous faire pénétrer dans un univers qui est une sorte de grotte en papier, donc des morceaux de papier qu'elle déchire, qu'elle agrafe. Et donc on pénètre vraiment dans un lieu avec du relief, avec des couleurs, etc.
Moi je vois le corps féminin.
Alors c'est vrai que le titre Belladone renvoie aussi, c'est une plante qui a de multiples usages en médecine et qui est à la fois une plante qui soigne mais qui tue. Donc il y a un contraste assez important entre ces deux aspects de cette plante qui a été appelée longtemps l'herbe des sorcières.
Oui.
Donc nous sommes dans la grotte des sorcières en fait.
Oui, on y croit et on a un peu peur.
J'espère que vous n'aurez pas trop peur et que personne ne sera brûlé.
Pourquoi vous faites tout ça, Christine Fall ?
Par passion. Parce que je pense que le dessin correspond vraiment bien à notre époque, parce que c'est quelque chose de nomade, c'est quelque chose qui au départ n'est pas très onéreux. On peut quand même faire des ateliers, c'est ce qui nous intéresse dans le printemps du dessin, avec quelques feuilles de papier et quelques crayons.
Puis c'est aussi montrer que le dessin est un art en soi, pas seulement un art qui prépare à la peinture.
C'est vraiment ce qui est la définition justement du dessin contemporain, parce que pendant plusieurs siècles, c'est vrai que le dessin, même s'il était extrêmement bien exécuté, était plutôt une œuvre préparatoire.
Comme un croquis.
Voilà, exactement. Et maintenant, c'est vrai que toute une génération d'artistes a choisi le dessin pour s'exprimer d'une manière unique, parce que il permet en fait beaucoup de choses, beaucoup de techniques. On me demande souvent c'est quoi le dessin contemporain. Alors pour moi, vous le voyez ici, ce n'est ni une question de support, ni une question d'outils. Le dessin peut prendre des formes. Là, on monte jusqu'au plafond, on est sur le sol, on est recouvert. C'est du papier découpé, c'est du papier agrafé. Donc c'est toute cette possibilité, cette richesse et cette variété qui nous intéresse et que l'on souhaite partager avec le public.
Et donc, il y a 8 ans, Christine Fall a lancé le printemps du dessin dans toute la France, dans les villes, dans les villages. Et dès jeudi, il va permettre pour cette 8e édition, donc, à des dessinateurs de faire connaître leur activité au public dans 89 lieux.
Ces lieux qui participent sont aussi bien des monuments nationaux, des artothèques, des fracs, des centres d'art. Et on profite de la richesse du tissu français, parce qu'il faut dire qu'on a quand même beaucoup de lieux culturels en France qui de temps en temps sont dans des lieux un petit peu isolés. On peut vivre quelque part près d'un monument national sans y être retourné depuis des années. On peut être près d'une artothèque et ne pas savoir exactement ce qu'elle fait. Et tous ces lieux qui sont un petit peu éparpillés comme ça dans toute la France proposent donc des ateliers, des expositions, des workshops. C'est vrai que cette année, on est très content de voir des lieux historiques, comme les sites préhistoriques de Lascaux et de la vallée de la Vézère, première fois qu'ils font partie du printemps du dessin, et ils vont permettre aux participants de découvrir les relations entre les arts graphiques et l'art du récit. Un événement intéressant, c'est dans les Hauts-de-France. Alors il faut savoir que les Hauts-de-France, on a vraiment un partenariat assez large avec toute cette région, puisque nous disposons d'un outil formidable qui est le FRAC Amiens, qui est le FRAC du dessin. Et donc, dans cette région des Hauts-de-France, il y a une artothèque extrêmement active qui est dans la ville de Hellem.
C'est juste à côté de Lille.
Et cette artothèque s'appelle L'Inventaire, elle est très active. Et là, l'artiste Tony Durand, qui est dessinateur et graphiste, va permettre au public de vraiment voir comment on peut concevoir une image avec un lien entre texte et image. Et voilà, on peut aller, nous, jusqu'à dire que écrire, c'est dessiner.
Le printemps du dessin, oui, dit Nadia Tereskevich, le printemps du dessin à partir de jeudi. Et puis l'exposition au Drawing Lab, Belladone, de Tatiana Bolska, 17 rue de Richelieu à Paris. Ça vous fait sourire parce qu'il y a des correspondances avec votre film.
La probabilité, c'est quand même fou.
Ah, c'est beau, hein, c'est du travail, le grand atelier. Vous irez.
Oui.
Vous avez raison. Est-ce que vous avez envie de nous parler d'un conseil culturel, de nous donner un conseil, Nadia Tereskevich?
Mais il y a une chorégraphe en ce moment qui recrée à l'Opéra de Paris une de ses pièces que j'avais vue il y a quelques années qui s'appelle Ossidi Love. Elle s'appelle Sharon Eyal et elle recrée pour l'Opéra de Paris, je pense que là la pièce maintenant elle s'appelle Vers la mort. Et c'est une pièce sur l'amour, sur le manque, comment les personnes qui s'aiment peuvent se manquer, enfin c'est une chorégraphe que j'aime énormément, qui a recréé presque un langage à part entière sur ce que c'est la beauté, sur ce que c'est que les corps. Elle s'intéresse aux danseurs, aux personnalités. Et j'ai notamment une de mes meilleures amies qui danse dans la pièce. Donc, voilà.
Avec qui vous avez appris la danse, peut-être autrefois?
Non, mais on est de grandes amies, Marion Gauthier.
Il n'y a aucune frustration quand vous voyez des danseurs sur une scène?
Ah non, au contraire, j'ai un plaisir immense de voir la danse.
Je me tourne vers votre invité et d'ailleurs je signale que vous vous êtes rencontrés hier pour préparer l'émission.
Oui.
Ça a duré 4 heures. J'en reviens pas, c'est la première fois que mes invités se rencontrent la veille.
On est sérieuse.
Et travaillent avec un petit cahier pendant 4 heures. D'ailleurs, Nadia a toujours un petit cahier sur les tournages, un jour il faudra les publier. Hein.
C'est vrai, hein, c'est vrai, j'y pense.
Le conseil de Lynn Papin, est-ce que c'est un bouquin, est-ce que c'est une expo, un film?
Une exposition, c'est Suzanne Valadon au Centre Pompidou. Et moi je l'avais vue à Barcelone l'année dernière, donc c'est une exposition qui voyage. Et j'avais été frappée par la beauté déjà de ses peintures, mais surtout par le fait que, justement Nadia parlait de corps, mais elle représente les corps féminins à une époque où la plupart des peintres étaient des hommes et où le corps des femmes était représenté par des hommes. Et donc Suzanne Valadon a commencé elle-même par être muse, donc par être corps peint par les autres. Et à un moment donné, elle s'est lancée, et soutenue par Degas, et s'est mise elle-même à peindre son corps et les corps des femmes. Et je trouve que l'exposition met vraiment en valeur ce cheminement d'une femme qui prend sa place en fait dans le milieu de la peinture, qui était un milieu très masculin, et qui apporte son regard féminin dans la représentation justement du corps.
Qu'est-ce qu'elle peint exactement? Est-ce que vous pouvez décrire un peu son dessin?
Elle peint...
Donnez un exemple ou deux.
Elle peint... Il y a des odalisques, il y a des corps nus. Avec ce qui m'avait frappé, c'était l'utilisation très moderne, je trouve, des couleurs, où elle utilisait des couleurs presque pop. J'avais trouvé par moments du bleu, du vert, du jaune, du rouge pour représenter les peaux. Et c'est vrai que... Enfin, j'ai trouvé que ça sortait vraiment du paysage de son époque, en fait, ce qu'elle faisait, et que ça m'a touchée, quoi.
Voilà, et ça va encore durer quelques temps, quelques semaines, au Centre Pompidou. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
D'être venue, Lynn Papin, Une vague, mercredi chez Stock, à l'invitation de la comédienne.
Merci.
Nadia Tereskevich, qui a pas mal d'actu, qui se prépare à tourner un Desplechin avec François Civil, mais elle ne veut rien en dire, je suis un petit peu frustré.
Mais je l'ai tourné.
Ah, il est tourné.
Ah oui.
Bon, mais en tout cas, vous n'en parlez pas, et puisque vous parlez de Belladone, qui sort dans 10 jours. Bonne suite à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Lucie Lemarchand a réalisé cette émission. Je lui souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire. Émission préparée avec Louise Tempero, Virginie Rouzic et Betty Algray. Il y avait à la technique Gilles Gaillard. Samedi, c'est la balade. Vous connaissez l'horaire sur France Inter, c'est 17h. Même horaire dimanche pour Le Grand Atelier. On recevra l'auteur de BD, Jean-Marc Rochette, dans Le Grand Atelier. Le Grand Atelier que vous retrouvez sur Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur Instagram et Blue Sky.